sur Culture Zag. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qu'on n'a peut-être pas souvent entendu ni parlé, sur le sujet des électrosensibles. Alors, pour c'est-à-dire que c'est l'hypersensibilité au champ électromagnétique. Alors, pour parler de ça, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Néron, qui est présidente de l'association Poème 26, un roman sur Isère. Bonjour Catherine et merci d'être déplacée jusqu'ici.
Bonjour Gérard.
Ma première question, pourriez-vous expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est d'être électrosensible ?
Alors, on est tous électrosensibles. On est tous sensibles à l'environnement électrique, d'une certaine façon, émis par les champs électriques naturels, mais aussi les champs électriques artificiels, mais jusqu'à un certain point. Et le problème, c'est qu'on a des personnes qui deviennent intolérantes aux ondes électromagnétiques artificielles, qui sont créées par tout ce qu'on a mis dans notre vie au quotidien, et qui deviennent à la longue électro-hypersensibles.
D'accord.
Et la vie de l'électro-hypersensible est terrible.
Est terrible.
Ouais, parce que cette personne ne peut plus vivre en société, est rejetée par sa famille, ses amis. Le monde médical ne connaît pas cette problématique sanitaire. Et donc, ces personnes cherchent des lieux sans ondes pour tout simplement vivre. Et là, malheureusement, il y en a de moins en moins, puisqu'on nous met des antennes relais de partout.
De partout. Donc, c'est là, on va en parler de ça avec les communes locales pour voir comment on se bat contre ça. Alors, je vais parler de Poème 26, c'est votre association. Comment luttez-vous et alertez le public sur ce phénomène ?
Alors, Poème 26, ça veut d'abord dire prévention ondes électromagnétiques drôme. Elle a été créée en 2011. Elle faisait suite à deux collectifs. Un collectif SOS Antenne Relais Roman Bourg de Péage et un autre collectif qui s'était créé peu de temps avant 2011, le collectif Brasilia. Et en fait, il faut connaître l'historique du SOS Antenne Relais. L'histoire de ce collectif, il y avait une antenne relais près de l'école de Bourg-de-Péage à la République, contre le mur d'enceinte, qui avait été installée en l'an 2000. 5 ans après, il y a un collectif qui s'est constitué et qui a réussi à convaincre les politiques de faire déplacer cette antenne. Et 2 ans après, cette antenne a été ôtée. Mais ce collectif, il était constitué de parents d'élèves, d'enseignants, de riverains, qui étaient mal avec cette antenne relais, parce que c'est un émetteur très puissant. Et des personnes sont devenues électrosensibles à cause de cette antenne.
Il y a un véritable ressenti négatif.
Voilà. Et moi, j'étais dans la situation d'une de mes filles qui avait des troubles que je ne comprenais pas, qui ont été brutaux, soudains. Et c'est une de mes patientes qui est arrivée en 2007 me disant « Ça y est, on a gagné, on a fait déplacer l'antenne relais. » Elle était instite à cette école. Et elle m'a dit « Mais je pense que vous devriez aller voir ce collectif parce que votre fille vous est dérangée continuellement par l'école où elle était. Ma fille avait des mal-être, des malaises, et je devais la sortir de la classe. » Donc du coup, j'y suis allée. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a parlé des ondes. Je ne connaissais pas, bien qu'on m'avait dit quelquefois, une ostéopathe m'avait dit « Attention Catherine, au téléphone portable. » Je dis « Je veux bien, mais je ne vois rien, je ne sens rien. Pourquoi ça serait dangereux ?» Et bien là, j'ai eu le temps d'étudier la physique des ondes, et puis de revoir ce qui est ma partie professionnelle. Je suis kinésithérapeute. J'ai une approche comportementaliste du corps et qui est dans la sensorialité du corps.
Sensorialité du corps.
Voilà. Et il y a des passerelles évidentes à faire entre la physique des ondes et la physique du corps. On est électrique nous-mêmes. Et en fait, ces ondes perturbent notre système électrique. Et donc, on peut avoir multiples symptômes. Et c'est pour ça que je me suis engagée dans ce collectif. Et après, on a créé Poème 26, qui est reconnu d'intérêt général et qui est subventionné par la mairie de Romans depuis plusieurs années.
Elle est subventionnée.
On est subventionné par la mairie de Romans. Et on apprécie, on remercie la mairie de Romans de nous subventionner. Okay. Parce qu'il y a de l'écoute et je pense que notre maire est attentive quand même parce que tout le monde est concerné par cette problématique.
C'est encourageant pour vous.
Oui, mais on aimerait bien qu'il y ait un peu plus encore d'engagement.
D'accord. Est-ce que vous avez une idée, donc c'est une question peut-être aléatoire, du nombre de personnes à peu près qui souffrent de cette maladie, vous appelez ça une maladie
un syndrome, c'est-à-dire qu'on n'est pas malade soi-même, mais on devient malade par les ondes.
D'accord.
Parce que ces ondes vont perturber notre homéostasie, notre système neurodégénératif. Et donc, on estime à 5% en France, donc 3, plus de 3 millions de Français. Et il faut savoir que l'ANSES a reconnu officiellement l'électro-hypersensibilité en mars 2018.
C'est reconnu officiellement.
Et ça, personne ne le sait, mais c'est officiel. Et l'ANSES reprend une étude actuellement au niveau des électrosensibles et fait appel à des électrosensibles pour qu'on puisse
témoigner
et puis se rendre compte de leur vécu, des douleurs. Donc là, il y a une sociologue et un médecin qui vont aller voir ces personnes. Mais je dirais que les électrosensibles sont un peu échaudés parce qu'on a beaucoup parlé d'eux, on a fait des études, puis on les considère pas très bien, alors que ce sont des gens comme vous et moi, et qui ont leur vie totalement remise en question.
D'accord. Alors, merci pour cette réponse, Catherine. Alors, une autre question, c'est comment on sait qu'on est électrosensible et comment s'en sortir?
Oui. Alors, le plus souvent, c'est la personne qui va faire son autodiagnostic, parce qu'elle a une errance médicale énorme, parce qu'elle va se plaindre à son médecin, elle va lui dire « mais j'ai mal à la tête, je suis fatiguée, je me sens pas bien ». Alors souvent, on dira « c'est psychologique ». Donc on va voir 1, 2, 3 psychologues, des psychiatres éventuellement. Puis après, on va aller voir un peu dans médecine douce, médecine parallèle, ostéopathe, naturopathe. Certaines fois, on tombera sur un thérapeute qui connaît l'électrosensibilité, qui va interpeller la personne pour qu'elle se pose des questions sur son utilisation des nouvelles technologies. Et puis d'autres, par eux-mêmes, vont se dire « mais quand je passe devant une antenne relais, j'ai des coups de poignard dans le cerveau, mais c'est épouvantable. » Ou « j'ai un épuisement corporel énorme. » C'est donc du sensoriel, c'est le ressenti physique, physiologique du corps qui permet de dire qu'on a ça. Et les gens n'ont pas l'habitude de travailler sur eux, d'être dans le ressenti. Donc ils vont plutôt dire « j'ai mal à la tête, j'ai un trouble digestif, j'ai des palpitations cardiaques, ou j'ai des douleurs articulaires, musculaires. » Et en fait, on va dire aux électrosensibles quand on les rencontre, mais souvent ils le font d'eux-mêmes, ils vont enlever tout ce qui est émetteur dans leur habitation.
D'accord. Donc, ça commence par,
un grand nettoyage de chez soi. Mais le problème, c'est que tout le monde ne peut pas enlever et déménager parce qu'il y a des antennes relais en face de chez soi. Donc il y a les pollutions intérieures qui sont dues par la box Wi-Fi. Donc là, il y a des solutions toutes simples. On met un câble Ethernet et on enlève la Wi-Fi.
D'accord.
C'est un très gros polluant.
Donc c'est déjà quelque chose de pratique, on met un câble Ethernet.
Câble Ethernet, voilà.
Ethernet, d'accord.
Et donc du coup, on enlève la Wi-Fi sur la box.
Oui.
Et du coup, on n'aura déjà pas l'hyperfréquence, c'est du micro-ondes. Il faut savoir que la fréquence du Wi-Fi, c'est du micro-ondes. C'est aussi violent. Un micro-ondes n'est pas blindé. Il faut faire attention, c'est de l'hyperfréquence aussi. Il faut s'éloigner, jamais mettre des enfants à regarder le plat qui tourne, parce que là, il y a une puissance, ça se mesure, les appareils mettent en évidence ça. Et puis, il y a donc le téléphone sans fil, qui est aussi un des premiers polluants de l'habitat.
Le téléphone
sans fil, le
sans fil.
Sans fil. Celui avec lequel on se promène dans l'appartement pour téléphoner. Et le téléphone portable,
Quel est le pire, le téléphone portable
ou
le téléphone fixe?
Ils sont tous. Il y a pas. Et puis, on sera peut-être plus sensible à une fréquence qu'à une autre, mais après, plus on laisse la fréquence qui peut être mauvaise, plus le corps va décompenser. Donc on remet des téléphones à filaire. Il y en a toujours dans les grandes surfaces, vous en trouvez. Moi c'est ce que j'ai, je parle avec la personne, je ne fais pas autre chose quand je téléphone.
Filaire,
comme autrefois le téléphone, le fil à la patte comme on avait autrefois.
D'accord, qui sont encore en vente.
Qui sont toujours en vente, on les trouve sans problème.
Très bien, c'est des conseils très très pratiques. Alors, je suppose que vous êtes en communication, en contact avec les autorités locaux, comment ils réagissent par rapport à vos demandes et de vos...
Alors, on a toujours été considérés. On a toujours bien été considérés. Je dirais que dès qu'il y a eu un nouvel maire, moi, je me suis présentée en tant que présidente de Point 26. Et à Madame Toraval, j'avais demandé de faire une information publique au conseil municipal. Et là, on m'a dit, c'est trop compliqué de réunir le conseil municipal pour ça, vous nous faites un dossier. C'est ce fameux dossier que je vous ai remis, qui a été donc réactualisé chaque année. Et on peut le trouver sur notre site internet, sur poème26.com.
Très bien.
Ce dossier fait 18 pages, il explique ce que sont les ondes, qu'est-ce qu'est l'électrosensibilité, comment se protéger, quels sont les actes à faire.
D'accord. Donc, il ils vous prennent au sérieux le problème. Donc ils reconnaissent quand même qu'il y a il y a peut-être un souci parmi la population.
Du moment qu'on a une subvention, je pense qu'ils nous entendent quand même.
Oui.
Et puis on alerte, j'ai souvent alerté Monsieur D'Aragon, parce qu'au niveau de la communauté de communes, on cherche des zones blanches. Et c'est très problématique, on n'en a plus. On nous dit non, mais c'est le progrès, on met des antennes de partout. Mais s'il vous plaît, moi je fais une adresse aux maires, aux politiques, entendez la voix des électrosensibles. Ce ne sont pas des uluberlus, ce sont des gens qui souffrent dans leur corps. Et les antennes relais qu'on met maintenant, mais la 5G, c'est de plus en plus puissant et de plus en plus agressif sur les organismes. Donc écoutez-les, essayez de nous aider à trouver des zones blanches, c'est vraiment une urgence vitale. Là, il y a l'association AZB qui a lancé cet appel aux médias et qui reprend le témoignage de 5 à 7 personnes électro-hypersensibles qui vivent dans des forêts ou qui vivent dans des conditions que personne n'habiterait. On alerte les préfets. Les préfets nous répondent rarement. Moi, j'ai déjà envoyé un témoignage, un lot de 15 témoignages de Drômois électro-sensibles à Madame la préfète. Il y a 6 mois, je n'ai eu aucun retour.
Pas de retour.
S'il vous plaît, des zones blanches. Des zones grises, des zones blanches, mais où la personne peut mettre sa tente, peut mettre son camping-car et respirer et vivre. On ne veut pas d'électricité, on ne veut pas tous les services habituels.
Bien sûr. Par rapport aux écoles, par exemple, donc le problème, vous avez repéré ce problème. Dans votre propre famille, avec votre fille. Est-ce que, donc ça c'était l'origine de cette découverte, est-ce que vous êtes retourné dans les écoles et comment les écoles réagissent par rapport à ça? Est-ce qu'ils sont réactifs?
Eh bien, il y avait plus de non-électrosensibles dans Point 26 que d'électro. Donc j'avais des personnes qui effectivement on allait dans les écoles, on les interpellait parce qu'il y a eu la loi Abeille qui demandait à ce qu'il y ait une sobriété numérique et qu'il n'y ait pas la Wi-Fi pour les maternités et pour les crèches.
D'accord.
Malheureusement la Wi-Fi est mise dans les maternelles et le problème c'est qu'on met un excitant et les enfants sont mis sous tension aussi comme tout adulte.
Bien sûr,
et le corps est réactif.
Oui.
Et j'avais l'exemple d'une personne qui était instite, qui dit « j'ai jamais vu autant d'enfants excités avec les nouvelles technologies ». Et une autre avait désactivé la Wi-Fi de la classe, ou à côté de la classe. Les enfants se sont apaisés. On remet la Wi-Fi. Excitabilité.
D'accord.
C'est de l'expérimentation. Il suffit. Alors le problème, c'est maintenant les jeunes générations. On leur met les tablettes numériques en Wi-Fi. Et on met les téléphones portables. Ce sont des émetteurs puissants. C'est pas juste j'entends la voix de quelqu'un. Il faut se poser la question comment fonctionne un téléphone portable. Ça va d'un émetteur A au téléphone portable et ça repart. Donc le téléphone portable est émetteur.
Bien sûr.
Et nous, on est au milieu. Ça traverse les murs, le béton. Et nous, on n'est pas virtuel, on est matière et électrique.
Donc les écoles, vous ne voyez pas de changement.
Au contraire. C'est toujours plus de technologie.
Donc le progrès domine partout. Ils transversent tous les murs.
Ouais. Et puis on met des tableaux aussi digitales, électriques. Mais arrêtez. Le crayon à papier, moi je fais la promotion du crayon à papier, du stylo.
Ah, oui,
arrêtez de taper sur un clavier, ils sont sous tension. On ne sait pas qu'un un ordinateur portable est souvent mis en Wi-Fi par défaut. Il faut le désactiver. C'est donc connaître comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire.
Vous avez des solutions très pratiques par rapport à tout ça, mais après, il faut convaincre.
Et voilà. Donc ça, on fatigue un peu. Mais on se réunit, maintenant, on essaye de se mettre en... On va créer une fédération. On est plusieurs dans toute la France à alerter. Et on va essayer de créer une fédération. C'est du gros travail, ça ne se fait pas comme ça.
Oui.
Mais c'est ce que m'avait dit à l'ARS, si vous l'êtes entendu. Il faut créer une fédération. Donc l'ARS m'a reçu, Ronalp. Hein. J'ai été entendue. Ils me disent, on sait bien que vous avez cette démarche. Hein. L'ANSES m'a reçu aussi.
On vous reçoit quand même. Je veux dire que vous n'avez pas de mal à prendre des rendez-vous.
Ça ne vient pas en 5 minutes, mais l'ANSES...
Après, il y a le résultat de ces rendez-vous. D'accord. Est-ce qu'il y a une suite?
Eh bien, ils donnent des conseils. L'ARS m'a donné des conseils. Donc, effectivement, cette fédération, elle est indispensable.
Cette fédération est indispensable.
Voilà.
Ouais. Catherine, dites-moi aussi, là, vous allez faire une conférence bientôt par rapport à tout ça. Est-ce que vous pourriez nous dire comment ça va se passer, il y aura qui, et qui sera invité, et donc c'est ouvert à tout public, je suppose. Pourriez-vous nous parler un petit peu, s'il vous plaît?
Il y a d'abord eu la conférence, il n'y a pas longtemps, à la médiathèque. La médiathèque m'a proposé de faire une conférence et il y a eu un public très très intéressé avec des témoignages d'électrosensibles qui sont venus.
Direct.
Peut-être qu'il y aura un projet sur Valence avec la médiathèque, donc on va travailler là-dessus. Mais par contre, là moi je suis invitée par contre à un colloque médical à Paris, lundi et mardi, organisé par le professeur Belpomme pour dire aux médecins ce que c'est que l'électro-hypersensibilité. Et il m'a demandé de faire aussi un topo, et je vais parler neurosensorialité et électro-hypersensibilité.
D'accord, donc, on parle des généralistes, de votre médecin.
Tous les médecins, généralistes, médecins spécialistes, ils sont tous concernés par cette problématique.
Ils sont tous concernés, mais quelle est leur réaction par rapport à tout ça, en gros
Les médecins, c'est très difficile de les convaincre. Parce qu'ils disent... Ils disent il n'y a pas de preuves. Mais si, il y a des preuves. Il y a des études, et c'est plutôt des études indépendantes.
Oui, oui, oui.
L'ANSES a reconnu quand même officiellement.
D'accord.
Et il y a eu quand même un document de la Direction Générale de la Santé qui dit qu'on doit accueillir les électrosensibles à l'hôpital. Et là, c'est le problème. Il y a un problème d'hospitalisation parce que les hôpitaux sont tous pollués. Et on doit aussi pouvoir faire un certificat. Tout médecin est apte à faire un certificat médical en fonction de la personne, de son discours. Donc il y a très peu de médecins qui le font. Mais cela permet d'avoir une reconnaissance par la MDPH, c'est la Maison du Handicap, une RQTH. Moi-même, j'ai cette RQTH, qui permet de dire à un employeur, ben voilà, j'ai un handicap par rapport aux ondes électromagnétiques.
D'accord. Alors comment ça se passe pour l'employeur? Est-ce que, par exemple, si quelqu'un est dans un lieu de travail, dans les bureaux, il y a tout est moderne, il y a tous les techniques possibles, les ordinateurs, etc. Mais comment un électrosensible peut travailler, parce qu'on a quand même besoin de travailler, comment on fait et comment on peut convaincre l'employeur qu'il faut mettre des sauvegardes?
C'est très très compliqué. Alors il y a quand même aussi une directive européenne qui date de 2017 qui fait obligation à l'employeur de faire une évaluation des pollutions électromagnétiques sur le lieu de travail.
Donc déjà une évaluation de taux de...
Personne ne l'a fait. Et le problème, il y a des plaintes alors de personnes qui sont électrosensibles, moi j'en reçois régulièrement, je leur dis adressez-vous à la médecine du travail. Le problème, on n'a plus beaucoup de médecins du travail. Et eux, certains entendent et aident la personne justement à faire, pour prévenir déjà sur le lieu de travail. Hein. Très peu, alors certaines personnes ont eu leur poste adapté de travail.
Donc
alors
c'est
tout blindé, c'est possible.
On peut blinder.
Mais ce qui serait bien, c'est pour ne pas irradier tout le monde, parce que les gens ne savent pas quand on parle de burn-out, moi une personne qui fait un burn-out au travail. Alors on voit effectivement surcharge de travail, mais quelle est l'utilisation des nouvelles technologies? Commencer par lui enlever les 2-3 téléphones portables qu'il a, lui faire un lieu simple.
Des choses simples.
Mais toutes simples. Sur notre site, il y a donc une vidéo faite sur le burn-out par des Belges, des jeunes Belges qui sont électrosensibles. Ça vaut la peine de le voir. Donc il y a des gestes de bon sens. Je dirais que les entreprises, alors ils n'en peuvent plus. Là, cette année, oui, Point26, depuis 4 ans, va au salon Préventica. C'est la prévention au travail. Et là, on a fait le salon de Lyon fin septembre. On n'a jamais eu autant de monde en préventeurs et en médecins du travail qui sont venus nous voir.
Donc c'est en pleine augmentation le nombre de personnes qui sont touchées de près ou de loin par ce phénomène.
Ah oui, oui. Mais le problème, c'est que comme les gens n'ont pas l'habitude de globaliser les symptômes et puis de se poser des questions sur la santé environnementale, alors il y a les pollutions chimiques, il y a la pollution de l'air, la pollution de l'eau, on en parle, mais la pollution électromagnétique, ça paraît hors entendement. Parce que ça ne se voit pas, ça ne se sent pas, tant
absolument
qu'on n'a pas de symptômes.
Donc ce n'est pas tangible, en fait.
Oui,
c'est
difficile à entendre.
Sens.
Mais nous, association, c'est pour ça qu'on est lanceurs d'alerte.
Bien sûr.
Hein, et qu'on alerte effectivement le monde politique, le monde médical, les médias aussi, parce que vous êtes concernés. Mm-hmm. Tout le monde est concerné, puisque tout le monde utilise cette technologie, en fait.
Donc, et vous ne vous découragez pas, Catherine vous...
Je fatigue un peu, quand même.
Je fatigue un peu, mais...
Mais je suis encouragée, je suis encouragée par des personnes qui me disent « Si, Catherine, il faut y aller. » Alors, je vais en parler de Gilbert Léger. C'était notre ancien webmaster. Il est décédé l'année dernière.
D'accord.
Et Gilbert était notre webmaster et c'était un prof de physique agrégé. et qui, à sa retraite, a développé son électro-hypersensibilité. On s'est rencontrés, je travaillais rue Pêcherie auparavant, il vient me voir. Il me dit, je comprends pas, j'ai des brûlures, j'ai de la dyshydro, j'ai des tensions. Et je lui dis, mais quel était ton dernier poste de travail? Et en fait, il était prof de physique au lycée Émile Loubet à Valence, dernier étage. Et c'est lui qui a installé la Wi-Fi et il était en plein faisceau d'antenne relais. À partir de là, ça a été la descente aux enfers.
Descente aux enfers.
D'autant plus qu'il était greffé du rein. Il a perdu son rein. Et on a dû le dialyser. Et problème, il ne pouvait pas être dialysé à Valence parce qu'il y a tellement de pollution autour de l'hôpital et dans l'hôpital que finalement on l'a dialysé à Romans parce que le service de dialyse était sain pour lui.
D'accord, était moins pollué, entre guillemets.
Il était moins pollué, il n'avait pas de box wifi, mais malheureusement, alors il a été dialysé 10 ans. Hein? Malheureusement, on va dire 4-5 ans après, il me recontacte après des vacances, il me dit « Catherine, j'ai failli passer de l'autre côté. » Ma dyshydrose est réapparue. Et en fait, ils avaient mis la box wifi à la porte d'entrée du service de dialyse. Et lui, au bout de 6 séances, il s'est rendu compte qu'il y avait cette box, il a alerté le médecin, le directeur de l'hôpital et l'ARS. L'ARS a exigé instantanément qu'on enlève la box wifi.
D'accord.
Donc, ils savent le sujet. Et du coup, il a pu continuer à être dialysé et on remercie le personnel soignant qui a tout fait pour qu'il soit dialysé. Donc ça voulait dire pas de téléphone portable à côté de lui. Et ils ont câblé tout le service de dialyse pour qu'il puisse être soigné.
Donc il y a une coopération.
Il y a eu une coopération.
Personnel
ouais.
Pour
qu'il soit traité.
Traité.
Mais on a beaucoup de personnes électro qui n'ont pas accès aux soins.
Bien sûr. Catherine, quelle est la prochaine étape? Question déficit.
Ah oui. Eh bien, la prochaine étape, c'est de former les électriciens pour qu'ils nous mettent des habitations saines. Parce que malheureusement, les habitations ont des mauvaises terres. Et les gens ne se rendent pas compte, mais toutes les pollutions électriques et électromagnétiques, justement, font un électrosmog dans l'habitation.
Un électrosmog?
Ouais, c'est un brouillard électromagnétique par tout ce qui est des hyperfréquences et des basses fréquences. Et donc, il faut vraiment qu'on explique que nous, électrosensibles, avec des personnes qui savent comment blinder, câbler comme il faut les habitations pour avoir des habitations saines. J'ai fait encore des mesures récemment chez une patiente, c'est catastrophique et c'était normal qu'elle n'aille pas bien. Elle me décrivait des symptômes, j'ai de l'électricité, je me prends des décharges, il n'y avait pas de terre dans sa maison.
Pour ces personnes-là, c'est réel, donc ils ont ces sensations, ces symptômes, ils n'arrivent pas à mettre le doigt dessus, une étiquette dessus, donc vous placez.
Je fais le lien.
Et vous créez le lien.
Et donc il y a des gestes simples à faire pour améliorer nos lieux de vie. Moi c'est surtout ça.
D'accord.
Arrêtez de nous en mettre trop. On n'est pas contre le progrès, mais on est contre un progrès qui ne tient pas compte de l'humain
D'accord.
et du vivant.
D'accord.
Et qui crée effectivement ces champs artificiels.
Très bien. Écoutez, Catherine, nous arrivons à la fin de cet entretien. Je vous remercie énormément de nous avoir éclairé sur nos auditeurs surtout, sur ce sujet d'électrosensibilité. Donc je vous souhaite bonne continuation et bon courage pour la suite.
Merci à vous en tous les cas.
Merci de votre écoute, chers auditeurs, et à bientôt sur Radio Zigzag. Portez-vous bien, à très bientôt, au revoir.
L'interview.